À quel point la consommation de pornographie est-elle dérangeante pour vous, pour votre relation de couple? C'est la question que je vous pose aujourd'hui et je veux vous entendre. Donc, pour me joindre directement en studio, composez la ligne sans frais de partout à travers la province, 1-800-667-5241 et bien sûr par courriel sans tabou à cogecodiffusion.com. Avec moi, j'accueille au bout du fil M. Simon-Louis Lajeunesse. Vous avez un doctorat en service social, enseignant, professeur associé à l'Université de Montréal. Bonjour, bienvenue à l'émission.
Bonjour.
Alors, au niveau de la pornographie, comment la pornographie influence, en fait, l'individu à ce point pour en devenir une dépendance?
Bien, écoutez, je vais d'abord devoir corriger une chose parce que selon une récente recherche qui a été faite par, je vais vous dire le nom, donc par M. David Lay, qui a été publiée tout récemment, en fait, il semblerait que l'addiction à la pornographie n'existe pas. Il a fait une méta-analyse de l'ensemble des recherches qui ont été faites sur le sujet. Et il semble que pour lui, c'est un fatras d'erreurs méthodologiques et de problèmes scientifiques.
Ah, ouais.
Ça, c'est très intéressant comme article, donc, à lire.
Oh, ouais, absolument.
Absolument. Je pense aussi, écoutez, ma recherche sur la pornographie, et j'en ai vu des recherches sur la pornographie, et à vue de nez, je peux dire que ce que M. Lay écrit sur les problèmes de rigueur scientifique dans les recherches sur les effets de la pornographie sont légion.
Hmm.
C'est absolument dramatique de lire ça, en fait. Et d'ailleurs, plus les gens sont contre la pornographie, plus il y a d'erreurs scientifiques dans leurs recherches. C'est un peu troublant.
Donc, c'est biaisé ou quoi?
Moi, je les trouve biaisés, oui. En effet.
Okay. Et,
en fait, votre question, c'était?
Ben, en fait, moi, je suis clinicienne, donc c'est sûr, je suis sexologue et psychothérapeute. Ma référence est très laboratoire clinique dans le vécu de les gens qui trouvent que ça commence à prendre trop de place, que dans le couple, il y a une problématique parce que un des deux, on dit qu'il est dépendant parce qu'il y a un enfermement au niveau de la porno et je suis plus en couple avec la porno qu'avec ma conjointe et que ça crée une détresse dans la relation. Et c'est un peu ça la question. Ouais. Comment ça se fait que la porno, quoi qu'on en pense, que c'est efficace à quelque part au niveau de l'excitation, mais d'un autre côté, il y a une influence néfaste au niveau de l'individu parce qu'on n'est pas en train de regarder une émission de cuisine, là, d'apprendre une recette.
Bon, écoutez, dans un premier temps, je pense qu'effectivement, quand vous dites qu'il y a des gens que ça nuit à leur relation de couple, le fait est que ça existe.
Oui.
D'accord? Donc, on aura beau se pencher sur 10 000 études scientifiques que tout croche. si dans les faits, il y a des gens qui disent « ça me dérange », ben ça les dérange.
Oui.
Ça, c'est le premier constat qu'il faut faire. Je pense, cependant, que il faut faire attention au jugement moral qu'on porte sur ce comportement-là. Puis les autodéclarations aussi. Si quelqu'un, c'est l'objet d'ailleurs de ma prochaine recherche, là, les gars qui s'autodéclarent dépendants à la pornographie.
Mm-hmm.
On va essayer de voir avec eux comment s'inscrit cette autodéclaration dans leur vie. Mais effectivement, mais je pense que les gars qui, parce que surtout les gars hein, qui sont dépendants oui. à la pornographie, on s'entend mm-hmm. que le problème est masculin ici là.
Mm-hmm.
Ben je crois qu'il faudrait regarder ce qui les mène là. Comment la pornographie est entrée dans leur vie? Comment elle est devenue ce qu'elle est devenue? Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui se met à boire un petit peu plus chaque jour et pour qui l'alcool prend une certaine signification. Donc,
oui.
on fait une carrière d'alcoolique comme on fait une carrière de dépendant sexuel ou d'utilisateur de pornographie. Il faudrait regarder comment cette carrière d'utilisateur de pornographie s'est insérée dans leur vie. Et la seule façon de la défaire, si cette carrière dérange, ben c'est de la défaire comme elle a été construite. Je pense pas qu'on puisse, comme ça, de l'extérieur, trouver une solution, dire « je t'interdis la porno » ou je sais pas quoi.
Il faut comprendre le sens, l'intention.
Exactement. Mm. Qu'est-ce qui se passe dans leur couple pour que le gars soit branché à ce point sur la pornographie, tu sais?
Est-ce que vous avez remarqué, Monsieur Lajeunesse, un dénominateur commun chez les hommes utilisateurs de pornographie? Est-ce qu'ils ont des traits de personnalité ou dans leur généralité, leur façon d'exprimer leur masculinité, qu'il y a des ressemblances?
Non. Non, pas okay. du tout. Les gars que moi j'ai rencontrés en entrevue pour ma recherche, En fait, j'ai dit non parce qu'il n'y avait pas de problématique commune.
Okay.
Cependant, l'histoire de vie est à peu près semblable. C'est-à-dire que on a des gars qui ont le premier contact avec la pornographie autour de l'âge de 10-11 ans, à peu près, et cette pornographie est toujours amenée par quelqu'un. Un grand frère, un cousin plus vieux, un père, un oncle. Les hasards sont plus rares.
Mm-hmm. Donc, ils ne sont pas nécessairement initiés, mais influencés.
C'est-à-dire que des gars plus vieux vont regarder ça, eux vont dire « Ah, qu'est-ce que tu regardes?
Ouais.
C'est quoi ça? Ils vont dire, c'est pas de ton âge, bon, etc.
Mm-hmm. »
Puis là, ils vont donc être en contact avec la pornographie
à
ce moment-là. Et souvent, d'ailleurs, à ces âges-là de 10 ans, la pornographie est rejetée, ça ne les intéresse pas.
Mm-hmm.
C'est comme plus tard, 11 ans, 12 ans,
ouais.
Ils vont dire « Ah oui, mon frère, écoutez! » Et là, tout d'un coup, ça va devenir quelque chose. Il y a une sorte de rituel de passage. Je pense que là-dessus, Daniel Welserlang avait raison de croire et de penser que la pornographie devient une forme de résistance viriliste, en fait, une forme de lieu ou de rituel de passage, parce que souvent, au contraire de ce que les gens pensent, la pornographie n'est pas nécessairement érotique ou excitante pour les gars. Elle le devient parce que les compagnons leur ont dit que c'était excitant et que c'était quelque chose qui devait servir à la masturbation.
Mm-hmm.
Moi, j'ai beaucoup de répondants qui me disaient, ben moi, je regardais ça, j'étais curieux, je voulais voir de quoi avait l'air une vulve, de quoi ça avait l'air une pénétration, une fellation, tu sais, parce qu'ils en avaient jamais vu.
Ben, il reste qu'il y a un volet quasiment éducatif ou didactique, là.
Il y avait effectivement dans la pornographie ce volet de combler une curiosité.
Mm-hmm.
J'irais peut-être pas dire éducatif.
Non, je le dis avec beaucoup d'ironie, oui. Parce que, tu sais, à l'époque, là, on revient à l'origine et l'évolution de l'espèce humaine, là, c'est plus anthropologique où toute la tribu vivait ensemble, puis il y a des gens qui étaient au courant qu'il y avait des couples autour d'eux qui avaient des actes de sexuels, mais c'est plus le cas, là. Alors, il y a comme un trait de fascination aussi là-dedans, oui. Quand vous parlez de curiosité.
Exactement. Alors, je pense que malheureusement, notre société actuellement laisse à la pornographie le rôle d'éducateur sexuel.
Oui, malheureusement.
C'est un des gros problèmes,
mm-hmm.
Parce que les gars ont une très grande curiosité, puis comme les filles d'ailleurs, mais comme je connais pas les filles, je peux pas en parler, là. Mais je soupçonne que les jeunes filles doivent avoir autant de curiosité que les gars, là. Et donc, les gars sont à la recherche d'informations, sont à la recherche de visuels, ils veulent voir de quoi ça a l'air, et la pornographie est toute disponible pour leur fournir cette information-là. Alors, ça va prendre un certain temps avant que ce soit scripté,
mm-hmm.
que ça devienne sexuel et excitant. La deuxième découverte importante, c'est que, comme je vous disais, donc, il faut que ce soit scripté, mais les gars ont déjà en tête, à l'âge de 11 ans, 12 ans, ce qui va les exciter et ce qui ne les excite pas.
Mm-hmm.
Donc, les gars ne sont pas des pages blanches sur lesquelles la pornographie va écrire des fantasmes, mais bien, ils ont déjà des fantasmes et ils vont chercher dans la pornographie à voir les fantasmes qu'ils ont en tête.
OK. Ça, c'est intéressant. C'est qui a créé l'autre.
Oui, exactement. Donc, on a vraiment le processus inverse.
Mm.
Puis les gars apprennent pas grand-chose en bout de ligne parce que quand... moi, j'avais des gars qui me disaient, ben moi, j'ai eu ma première relation sexuelle avec une fille à 16 ans.
Mm.
Puis là, je leur disais, puis t'as commencé à avoir de la porno à 12 ans. Ils disaient ça. Puis je commence à s'est passé la première fois. Ben, ça s'est très mal passé. Je savais pas quoi faire.
Uh-huh.
Pardon?
Là, on voit le contraste entre le virtuel et le réel.
Là, je disais, écoutez, là, excuse-moi mon grand, là, mais ça fait 4 ans
que
tu masturbes tous les jours sur de la pornographie.
Puis tu ne savais pas comment faire.
Là, tu es avec une fille puis tu ne sais pas quoi faire.
Mm.
T'as-tu un problème d'apprentissage? C'est quoi l'affaire?
Il ne savait peut-être pas comment reproduire ce qu'il avait vu.
Ben, c'est comme si quelqu'un avait assisté à une opération chirurgicale
c'est
à cœur ouvert à tous les jours pendant 10 minutes.
Oui.
Puis qu'un jour, on lui dit, maintenant, tu vas faire l'opération.
Mmh.
Ben non, excuse-moi, là, c'est parce que je ne sais pas comment la faire, l'opération.
C'est ça.
C'est exactement la même chose. Alors, les gars apprennent pas grand-chose et, en fait, ils sont très traditionnels. Ça aussi, ça m'a étonné.
Mmh.
Je leur demandais, écoute, mettons, là t'as la chance là, de sortir là, avec la fille qui te fait le plus bander à toutes les soirs. Puis là, t'as la chance de sortir avec elle. Le gars me regardait d'un air dédaigneux, me disait, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, pourquoi ça n'a pas de bon sens? Ben, tu pourrais pas présenter à ma mère.
Ouais.
Hein? Qu'est-ce que ta mère vient faire dans l'histoire? Ben, en fait, c'est la mère est l'espèce de représentante de la culture familiale. Puis les gars me disaient, ben écoute, c'est parce que je peux pas rentrer chez nous avec un fantasme, là.
Ben c'est parce qu'il y a le clivage objectal entre la madone et l'antimadone, hein? La femme à baiser, la femme à aimer, c'est deux très,
alors,
très différents.
Ce que les gars cherchent dans leur sexualité puis dans leur vie intime, c'est des femmes avec qui ils auront des rapports égalitaires,
mm-hmm, amoureux.
Avec qui ils auront des enfants et une intimité. Et cette fille de la porno, ils sont conscients qu'elle n'existe pas, puis ils n'en veulent pas. Ça les intéresse pas. Il faut que ça reste dans le monde du fantasme. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, moi, je crois que cette supposée dépendance, donc, à la pornographie, et comme toute forme de dépendance, que ce soit à l'alcool ou à autre chose, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de dépendance physique.
Mmh.
Hein, parce qu'il n'y a pas de...
C'est pas une dépendance à une substance.
Ben c'est ça. C'est pas comme l'héroïne où là, tu as vraiment une réaction avec des produits chimiques qui agissent sur les neurones. Oui. Là, tu n'as pas ça. Tu es comme face à un stimuli visuel et auditif. Et d'ailleurs, ce qu'il faut comprendre aussi, qui est très important, c'est que les gars ne regardent pas la pornographie comme ils regardent un film avec Bruce Willis. Alors, les gars vont choisir des scènes en particulier.
Oui.
Et une fois qu'ils ont choisi une scène, il va se produire un phénomène d'interaction virtuelle entre leur propre fantaisie et ce qui se passe dans l'image.
Okay.
Alors donc, une forme de relation sexuelle, en fait, ou de création artistique qui se fait virtuelle quelque part entre eux et l'écran d'ordinateur. Je dis l'écran d'ordinateur parce qu'aujourd'hui, tout le monde écoute.
Oui.
Bon. Okay. Et là, il va se créer quelque chose où des personnages vont être remplacés, des histoires vont être arrangées, des décors vont être changés, etc. Donc, il y a une partie de l'image de la porno qu'il voit, il y a une partie du fantasme préexistant, et il y a une autre partie qui est une création entre les deux, et c'est cet entre les deux sur le, qui va être excitant et sur lequel ils vont s'exciter et avoir un orgasme.
Donc, ils personnalisent, ils font eux, cette scène-là, ils se l'approprient.
Oui, exactement.
Mm-hmm.
Alors, il y a beaucoup de scènes qui sont sautées. Moi, les gars me disaient que les scènes de violence ne les intéressaient pas.
Oui.
Entre autres.
Domination, soumission, des fois.
Ça ne les intéresse pas. Ils me disaient aussi qu'ils vont beaucoup regarder les making-of.
OK.
Ça, ça les intéresse beaucoup de voir comment ça s'est fait, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est faux.
Oh.
Et souvent, il y a beaucoup de gars qui m'ont dit il serait temps qu'on arrête de nous prendre pour des épais. On le sait que c'est pas vrai ce qu'il y a dans l'écran.
Mais il y a quelque chose quand même qui les porte à y retourner. Avec tout ce que vous avez dit, M. Lejeunesse, il y a beaucoup de choses. Tu sais, je vois que les hommes que vous avez interrogés pour votre recherche sont quand même assez conscients, ont un jugement, un discernement, et ils sont capables de distinguer le vrai du faux. Mais je me dis, il y a quand même quelque chose qui les stimule. Je me dis, moi, je compare la porno à des comédies romantiques pour femmes. Tu sais, on le sait que c'est pas vrai, puis on le sait que s'ils choisissent pas au début, finira pas plus avec elle à la fin. Puis Jane Austen, ça existe pas. Puis on sait tout ça, mais bon, on y retourne pareil.
Ben, c'est un peu comme le cinéma. Hein. Moi, j'ai revu à peu près toute la collection des Bruce Willis, Die Hard et autres.
Ah oui.
Puis je retourne les voir, même s'il y en avait encore un autre, je retournerai le voir.
Ben oui.
Parce que mais je le sais que c'est complètement débile. Écoutez, il
tombe. Le dernier était avec son fils, hein, en Russie, non?
Oui, c'est ça. Écoutez, il tombe en bas du building 14 fois. Il tombe en bas d'un avion et il a toujours. Il marche encore.
Ben oui, mais c'est Bruce.
Alors, mais c'est un peu comme ça avec la pornographie, vous savez.
Oui.
Alors, c'est ça le hic. Alors, je pense que les gars qui se disent dépendants ou qui ont des problèmes de couple, je pense qu'ils avaient déjà des problèmes de couple avant d'utiliser la pornographie. Puisque ces problèmes se sont aggravés avec le temps. Mais la pornographie est pas responsable de grand-chose. Hein. C'est l'usage qu'on en fait.
Bon, on va se laisser là-dessus. Je trouve ça vraiment intéressant et très porteur de sens. On va permettre aux auditeurs de réfléchir le temps d'une pause. Et merci beaucoup, Simon-Louis Lejeunesse, docteur en service social, enseignant, professeur associé à l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été là et bonne chance,
madame,
pour votre recherche éventuelle. Merci.
Oui. Merci, au revoir.
On se laisse pour une très courte pause. Est-ce que la porno prend trop de place dans votre vie? Peut-elle mettre votre couple en péril? Est-il déjà en péril? Et dans le fond, la pornographie, c'est comme le catalyseur qui vient amplifier le symptôme. Je vais vous entendre là-dessus. Mais au retour, nous allons avoir Mathieu Saint-Onge qui vient nous parler de son histoire à lui et offrir un beau témoignage là-dessus. 1-800-667-5241.